Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard. Vous écoutez Sans détour, le Sans détour édition du 12 avril 21. Aujourd'hui, nous allons parler de choses importantes et d'actualité, entre autres. Maître Laurent Fréchette va nous entretenir des changements récents qu'a connu la loi fédérale au sujet de l'aide médicale à mourir. Nous allons entreprendre une série au sujet des pathologies de l'œil. Aujourd'hui, nous allons parler de glaucome avec Mme Carole Desharnais, qui est infirmière ophtalmologique au Centre d'information sur le glaucome McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Et enfin, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Thomas Anderson, qui est directeur général de l'école et avec la fondation à Pas de géant, qui s'occupe d'enfants, de jeunes adultes, l'éducation, l'inclusion des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Alors tout ça à Sans détour. La loi canadienne sur l'aide médicale à mourir a été révisée cet hiver. Elle a passé récemment au Sénat, qui a en fait ajouté des amendements à la loi qui était proposée par les communes. On se donne un 30 jours pour passer à tout ça. Mais déjà, on est dans une nouvelle ère pour ce qui est de l'aide médicale à mourir. Et pour s'y retrouver, on va nous demander à Maître Laurent Fréchette, qui est notaire émérite. Maître Fréchette, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui. Ça va très bien vous-même.
Ça va super, je vous remercie. La loi canadienne en matière d'aide médicale à mourir vient de changer. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que ça nous donne pour la suite?
Bien, écoutez, de nombreux changements qu'on attendait depuis longtemps. Alors, comme vous savez, en septembre 2019, il y avait eu le jugement Truchon de la Due qui avait été rendu par la juge Beaudoin et qui déclarait inconstitutionnel le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible qui était prévu dans le Code criminel et également le critère de fin de vie qui était prévu spécifiquement au Québec là, pour la loi concernant les soins de fin de vie.
Exact. Alors, c'était jugé inconstitutionnel, alors le gouvernement fédéral n'avait pas le choix que d'amender le code criminel.
Bien, il pouvait décider de rien faire et puis de voir la situation avec un vide juridique qui aurait été là ou de venir apporter certaines modifications pour prendre en considération ce qu'il en était. Puis la juge avait donné certains délais au gouvernement pour pouvoir y arriver. Ça a pris quand même un certain temps et on le voit encore à la toute fin là entre le Sénat et la Chambre des communes. Il y avait quand même certaines discussions, certaines négociations. Alors, la loi a été adoptée le 17 mars dernier, les modifications. Et ces modifications-là, ben essentiellement, c'est toute la question, justement, de la mort naturellement prévisible qui disparaît et qui a pour effet de modifier un petit peu le parcours dans la façon de fonctionner avec la loi. Et là, il faut comprendre qu'on est vraiment au niveau de la loi fédérale. Donc, il y a quand même des distinctions qui sont à faire pour le Québec, puisqu'au Québec, c'est toujours la loi concernant les soins de fin de vie qui s'appliquent, mais il n'y en a pas moins que ça nous donne un bon indicatif de ce qui se fait pour l'ensemble du Canada et qui, ultimement, va venir impacter également au Québec qui a l'intention d'apporter des modifications
on a vu dans la foulée de l'adoption de la loi fédérale que le gouvernement du Québec avait indiqué son intention de revoir la loi telle qu'elle est appliquée au Québec pour...
Et moi, j'étais un des membres du groupe d'experts qui avait été nommé à l'époque par le ministre Barrette. Donc, on a déposé un rapport et le gouvernement du Québec était en attente nécessairement des modifications fédérales pour lui-même pouvoir aller de l'avant. Ce qui fait que, au fond, quand on regarde ce qu'il y en est, c'est vraiment la question de critères d'admissibilité qui a une différence, donc un traitement si la loi, si la personne est dans une situation de mort naturelle qui peut être raisonnablement prévisible, ben on est dans un contexte qui essentiellement ressemble à ce qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que la personne fait une demande écrite, qu'elle signe devant un témoin qui est indépendant. Et évidemment, après avoir été avisée là, qu'elle avait un problème de santé grave ou un problème de santé irrémédiable, il y a deux médecins qui doivent fournir une évaluation, qui doivent confirmer que la personne rencontre les critères d'admissibilité. Et on va par la suite préciser à la personne qu'elle a toujours la possibilité de changer d'idée. Hein. C'est très important parce que c'est quelque chose qui est décidé à un moment précis, mais au moment même où on doit administrer l'aide médicale à mourir, la personne a toujours la possibilité de changer d'idée. Alors ça, c'est ce qu'on a. Auparavant, la loi fédérale avait un délai de 10 jours de réflexion qui était prévu. Ce délai a été retranché. Donc, on a pu attendre le délai de 10 jours du moment où la personne fait sa demande et qu'elle a été acceptée, que les critères ont été acceptés par les deux médecins, on peut aller de l'avant. Donc, ça va rassurer un certain nombre de personnes qui pouvaient être indisposées de crainte de devenir inaptes dans l'intervalle.
Donc, c'est en supposant que ce soit une maladie qui donne à penser qu'il y a une fin raisonnable de la vie qui s'approche. Mais maintenant, avec les modifications fédérales, ce critère-là n'est plus essentiel. Ça peut être plus large.
C'est ça. Mais quand on est dans du raisonnablement prévisible, penser à quelqu'un qui aurait un cancer en stade très avancé et qu'on voit qu'on est à la toute fin, alors à ce moment-là, on a une situation qui est très spécifique là, qui porte à ça. Par contre, vous avez raison, maintenant on a aussi élargi et la question que ça ne soit pas raisonnablement prévisible est maintenant possible. Donc, on peut être dans un contexte, pensons à la situation de Truchon ou de Gladue, de personnes qui avaient des souffrances et qui considéraient que leur situation, elle n'avait pas de date précise ou qu'on pouvait prévoir et qui souhaitaient avoir accès à l'aide médicale à mourir. Alors, on a élargi la possibilité pour ces gens-là. Ce qui fait que, encore une fois, les gens, une fois qu'elles sont avisées, qu'elles ont un problème de santé grave et irréversible, toujours, les gens peuvent faire une demande écrite qui va être signée encore une fois devant un témoin. Il y aura encore une fois les deux médecins qui vont faire l'évaluation des critères. Mais ce qui vient s'ajouter dans ce cas-ci, c'est qu'il peut arriver parfois que la personne va rencontrer le médecin et que on soit dans une expertise particulière là, qui est propre à la souffrance de la personne. Donc, on est venu rajouter que si l'un des deux médecins, parce que habituellement, on va avoir le médecin et le praticien qui s'occupe du patient, mais si le deuxième médecin n'avait pas l'expertise en question, ben, il devrait voir à transmettre le dossier à quelqu'un d'autre pour vraiment être capable de bien comprendre la réalité de cette personne-là. Maintenant, on devra, dans ce cas-ci, faire connaître à la personne malade les moyens qui sont disponibles ou appropriés. Là, l'objectif, c'est essentiellement de soulager ses souffrances dans un premier temps. Mais on va donc regarder avec la personne dans une période où il y a un délai de 90 jours qui est prévu maintenant pour que ce soit une décision réfléchie, que la personne ait eu le temps de sérieusement envisager là, des moyens de consulter et de soulager ses souffrances. Donc, il y a différentes possibilités là, qui s'offraient à une personne, que ce soit au niveau de soins palliatifs ou que ce soit de counseling ou d'autres.
Il n'y a pas une fin de vie raisonnablement proche, mais c'est une vie qui est pénible. Alors, la procédure se ressemble, sauf qu'il y a un délai de 90 jours, mais il y a tout un aspect qui n'a pas encore été abordé et en fait que le gouvernement fédéral a pelleté un peu par en avant, c'est celui de la maladie mentale.
Voilà. Alors, en ce qui a trait spécifiquement à la maladie mentale, c'était assez clair que pour l'État, on était dans une situation délicate. Il n'y avait pas une entente formelle là, qui ressortait un consensus. Et donc, le législateur a prévu qu'il y avait, pour une période de 2 ans, une espèce de période de pause là où, pour l'instant, un groupe d'experts va mener des recommandations, va faire des vérifications, formuler des recommandations quant à des protocoles là, ou des orientations qui auraient à être données pour les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Mais il faut se rappeler que ce n'est une personne qui souffre d'une problématique de santé mentale peut avoir accès à l'aide médicale à mourir si ce n'est pas la seule situation qu'elle vit. Dans la mesure où une personne serait avec un problème de santé mentale et aurait un cancer très souffrant, elle pourrait toujours avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ce qu'on ne souhaite pas pour l'instant, c'est d'ouvrir la porte strictement à une personne qui n'aurait que pour seule situation la problématique de santé mentale. On veut vraiment vérifier qu'est-ce qu'il y en est de la portée, de ce que ça peut avoir, des conditions. Et il y a essentiellement là, une question de bienveillance qui est là pour protéger là, les gens. Là. Évidemment, on veut appuyer là, l'autonomie des personnes, mais on veut aussi protéger les personnes qui seraient plus vulnérables dans un contexte particulier.
Parce qu'il y a, il y a une question de la conscience du geste que l'on s'apprête à poser ou du processus que l'on déclenche. Je pense qu'il y a aussi eu la question des personnes nouvellement diagnostiquées avec des maladies dégénératives, par exemple, comme l'Alzheimer, qui peuvent choisir, alors qu'elles ont une conscience suffisante de la situation, d'enclencher le processus pour le jour où ça ne sera plus du tout gérable.
Alors, ce qu'on appelle une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore... Cette portion-là n'a pas, elle non plus, été mise de l'avant. Ça fait partie de la période de réflexion. Donc, le législateur a créé un nouveau groupe d'experts qui va devoir se pencher sur cette question-là dans les prochains mois pour formuler des recommandations et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était. Alors, on est un petit peu surpris qu'il y ait ce revirement-là, puisque à l'égard de la demande anticipée, lorsqu'on était dans une situation où on pouvait penser à une personne qui souffrait de maladie d'Alzheimer ou une maladie dégénérative, il semblait se dégager quand même un certain consensus. Mais à tout événement, on n'a pas dit non, on a tout simplement précisé que pour l'instant, ce n'était pas possible, qu'il était pour y avoir une consultation, puis qu'on était pour revenir avec une réflexion un petit peu plus approfondie. Pour comprendre que c'est toujours le principe des petits pas quand on est dans ce genre de situation, puisque on est dans quand même avec un contexte de personnes qui sont en situation de souffrance et évidemment, on veut voir à respecter à la fois l'autonomie des personnes, mais également sauvegarder les personnes vulnérables. Et un petit peu de la même façon, on verra plus tard toute une réflexion qui sera plus éventuellement à l'égard des mineurs matures. Oui. Donc, qui pour l'instant ne sont pas admissibles. Penser à quelqu'un qui aurait 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui aurait une maladie très grave et qui est en situation de souffrance, pour l'instant, comme cette personne-là n'a pas sa majorité, qui est l'une des principales conditions. Alors, pour l'instant.
La maturité étant définie de quelle manière dans ce sens-là?
Bien, c'est dans quelle mesure la personne a la capacité, l'aptitude à comprendre la portée de la décision.
Ce n'est pas une question d'âge chronologique nécessairement.
Non. Non, un petit peu de la même façon qu'une personne qui va être déjà avec des pertes cognitives pourrait ne pas avoir nécessairement sa capacité juridique de contracter un contrat, mais encore l'aptitude à consentir pour les soins. Alors, on aurait à se tourner vers cette personne-là puis valider est-ce qu'elle comprend la portée, l'ampleur et toutes les conséquences de son geste. Et ce qui fait qu'au fond, c'est un petit peu la même chose qu'on est en train de réfléchir. Mais là, pour l'instant, la société n'était pas encore prête à aller de l'avant avec ça. C'est quelque chose qui a été reporté à plus tard. Mais on est quand même à ça. Et c'est un petit peu la même chose quand on arrive avec les personnes handicapées. Alors, jusqu'où la personne a l'aptitude à comprendre. Alors, c'est toute une question de comprendre, de saisir l'aptitude qu'une personne pourrait consentir ou refuser à des soins.
C'est une décision, c'est une orientation que la société doit prendre, mais ce n'est pas une décision que l'on veut prendre pour autrui ou dans un sens large. Dans le processus législatif cet hiver, le Sénat a surpris un peu la Chambre des communes en amenant des amendements, en ajoutant des amendements qui étaient peut-être même au-delà de ce que la Chambre de communes souhaitait créer dans la loi. Il s'était donné une période de 30 jours pour réconcilier ça un peu avant que la loi soit sanctionnée. Alors, ça, c'est déjà maintenant, c'est derrière nous.
Oui, parce que, ben, écoutez, on arrive aux 30 jours en question, le 17 mars, 17 avril.
D'accord.
Comprenez que, au fond, ce qu'il y avait, c'est qu'on devait, les parlementaires devaient amorcer dans les 30 jours la mise en place d'un processus d'examen parlementaire là, du rapport. Alors, c'est vraiment cette période-là là, qu'on pouvait avoir, mais il faut comprendre que ce qui était mis en place est vraiment là et est en vigueur également là,
depuis le 17 mars.
17 mars.
Parfait. Oui, allez-y.
Oui. Ce que j'aurais peut-être souhaité, c'est juste rappeler les critères de façon générale.
Malheureusement,
on n'a pas le temps.
On va s'en reparler, puis soyez sûr, Maître Fréchette, qu'on va se reparler du sujet, parce que maintenant, il reste à voir comment Québec va adapter sa législation. C'est une longue histoire qui ne se termine pas aujourd'hui. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, et je vous en remercie. On va se reparler.
Ça me fait plaisir de collaborer à nouveau.
Ah, ben ça me fait plaisir. On va se reparler bientôt. C'est un sujet. Le livre est ouvert. Voilà.
Absolument. C'était Maître. Portez-vous bien.
Merci vous de même, Maître Laurent Fréchette, notaire émérite, et qui nous parlait de l'aide médicale à mourir.
Yeah. Ah. Yeah. So nice. So say. Assassinats. Ils voulaient savoir ouais que je mets de la sauce nice dans ma sauce nice. C'est pas compliqué, je veux que ça goûte nice.
Je mets de la sauce là-dessus, je mets des spices là-dessus. Ça c'est sucré, ça c'est salé, ça c'est pour les papilles. Je mets la graisse là-dessus, je mets du beurre là-dessus. Ça c'est graissé, ça c'est beurré, ça c'est pour ta famille.
Tu peux point trop mettre de sauce nice, pas comme any old spice. Parce qu'il n'aura plus, il n'aura d'eau. T'as peut-être pas n'aura, c'est pas sauce nice, c'est notre love quote.
Même si c'est plus about, sans que c'est plus about, ma sauce est out, ça c'est out. Même si c'est plus about, sans que c'est plus about, ma sauce set out. Ouvre des cannes, ma tanka ouvre des cannes. On pourra parler toute la journée about the shit the man. Ça m'a dit tout avant que tu me diras que ça se passe. I guess qu'il faut des belles épices à part de la no shit sauce.
Bonjour, ici François Beauregard à Sans détour. Aujourd'hui, nous allons débuter une série où l'on va démystifier des maladies qui mènent à des pertes de vision. Et aujourd'hui, on commence par le glaucome. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Carole Desharnais, qui est infirmière ophtalmologique au Centre d'information sur le glaucome McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Mme Desharnais, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de l'invitation.
Ça nous fait plaisir parce que le glaucome, c'est beaucoup une question de dépistage. Ça fait pas mal, puis si on n'y fait pas attention, ça s'installe, puis ça peut nous voler la vue.
Oui, exactement. Donc, c'est vrai que ce que vous dites, effectivement, le glaucome, c'est une maladie chronique de l'œil qui est caractérisée par une atteinte du nerf optique qui peut, si c'est pas traité, conduire à une perte du champ visuel, donc de la vue, et même à une cécité complète.
Alors, le nerf optique est attaqué parce que c'est la pression de l'œil qui augmente. Qu'est-ce qui, dans la physiologie de l'œil, qu'est-ce qui se passe pour que le nerf optique soit... mise
donc,
à mal.
C'est certain qu'il y a plusieurs facteurs. Mm-hmm. Ça, c'est un des facteurs qu'on connaît très bien. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de l'œil, la pression augmente. Mm-hmm. Puis cette pression-là peut amener à une destruction des fibres du nerf optique. Puis, il faut penser que le nerf optique, ce qui arrive, c'est que sa mission à lui, c'est d'acheminer l'information au cerveau. Puis, le cerveau va interpréter, puis ça nous permet de voir.
D'accord. Il n'y a pas de cause directe. C'est pas un virus. C'est pas quelque chose. On peut pas mettre le doigt sur ce qui cause le glaucome. Il peut y avoir des facteurs, mais on peut pas dire « Ah, j'ai été en présence de personnes qui avaient le glaucome, donc maintenant je vais l'avoir. » C'est pas aussi simple. Ça peut être l'âge, ça peut être...
Oui, vous avez bien raison. Donc, c'est pas une maladie contagieuse, comme vous venez de le dire. Par contre, il y a toujours un facteur là, qui peut se transmettre d'une génération à l'autre. Et donc, l'âge est un facteur. Mm-hmm. En effet, les personnes qui sont âgées de plus de 40 ans, c'est à ce moment-là qu'on va généralement détecter le glaucome. Mm-hmm. Puis, ce glaucome-là, avec l'âge, il peut se développer et on peut avoir plus de risques de l'attraper ou d'être atteint, plutôt. Mm-hmm. Et la prévalence pour les personnes de 80 ans et plus est actuellement de 11 %.
D'accord. Et le moment où la personne spécialiste, l'infirmière ophtalmologique ou encore l'ophtalmologiste, la personne qui fait l'examen, peut constater qu'il y a un glaucome, à ce moment-là, l'individu, la personne, elle n'a pas commencé encore à perdre la vue.
Il faut comprendre qu'il peut y avoir des gens qui sont atteints de, pas nécessairement du glaucome, mais sont des suspects. C'est-à-dire que les pressions à l'intérieur de l'œil peuvent être élevées sans nécessairement avoir des atteintes de champ visuel ou du structure du nerf optique. Mm-hmm. Et pour avoir un glaucome, c'est détecté par les spécialistes de la vision, c'est pas nécessairement l'infirmière. Donc, en première ligne, on a les optométristes qui, eux, si jamais ils voient que les trois composantes sont là, donc des pressions trop élevées à l'intérieur de l'œil, ensuite des atteintes du nerf optique et finalement, une perte de champ de la vision au niveau de la périphérie, il va référer à un spécialiste de l'ophtalmologie, un ophtalmologue spécialiste en glaucome.
Et une fois qu'on a identifié que l'on a le glaucome, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le retarder? Est-ce qu'on se met des gouttes, des onguents, on change son alimentation? Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir trouver un remède, donc une petite pilule qui fait qu'on on guérit, là, comme un maux de tête. Oui. Mais ici... si on veut parler de prévention du glaucome, on parle surtout des gens qui sont les suspects, là, ceux qui ont des pressions élevées. Donc, il faut faire examiner nos yeux régulièrement. D'accord. Car même si à 40 ans, on ne porte pas de lunettes ou on n'a pas de symptômes autres ou on a une très belle vision, ça ne veut pas dire que le glaucome ou les pressions ne sont pas élevées parce que c'est asymptomatique. Ah. Donc, faire vérifier nos yeux, c'est super important. Si jamais on a plusieurs facteurs de risque que je vais vous donner incessamment. Là, on parle ici de l'âge, la race, les problèmes vasculaires, les tumeurs dans le passé, l'hérédité, comme je l'ai déjà dit. Ben, c'est important de faire examiner nos yeux et comme ça, ils peuvent avoir un traitement en prévention donc qui va être fait, surtout chez les gens qui ont des angles étroits ou fermés.
Donc, c'est pas juste savoir si j'ai besoin de changer le verre correcteur sur mes lunettes, là, on parle de mesurer la pression de l'œil, mais ça devient assez courant maintenant dans la procédure d'examen oculaire.
Donc, exactement, l'optométriste, lui, fait un dépistage et ils sont excellents à ce niveau-là. Et comme vous le disiez, une fois qu'on a le glaucome, ben on parle plus de prévention, sauf si on a eu un accident et que le glaucome est dû à un trauma. D'accord. Alors là, on peut prévenir en utilisant des lunettes protectrices, là, de se protéger les yeux quand on fait des activités sportives ou qu'on travaille dans le jardin, par exemple. Mm-hmm. Mais une fois que le glaucome est là, la seule chose qui peut nous aider à ralentir, c'est bien l'observance, la persistance à nos traitements. qui peut nous aider à conserver notre vision, aussi faire les suivis avec notre médecin, les tests qu'il demande.
Les traitements, ça va prendre quelle forme? Est-ce qu'il y a des médicaments, des gouttes? Est-ce que ça peut aller jusqu'à la chirurgie?
Donc, les tendances pour ces temps-ci, c'est il y a des lasers. Hein, quand on parle des angles étroits et fermés, donc il y a une possibilité d'ouvrir ce drainage-là. Comme vous le dites si bien, il y a aussi les gouttes. Il peut y avoir des onguents, les chirurgies, mais c'est pas parce qu'on commence avec des gouttes que nécessairement on va finir avec une chirurgie.
D'accord.
Si on est très observant et on suit bien nos traitements, on peut conserver notre vision très fonctionnelle jusqu'à la fin de nos jours.
D'accord. Ça peut nous permettre de garder la vision que l'on a et d'éviter qu'il y ait une détérioration. Mais là, évidemment, comme toute chose, ça demande la discipline et la collaboration du patient ou de la patiente. Là.
Hein, oui,
c'est pas le glaucome est la plus importante cause de cécité dans le monde.
Oui, c'est la deuxième cause de cécité au monde et la première cause de perte de vision irréversible. Il faut comprendre que cette maladie-là, c'est très complexe. Ce n'est pas juste une histoire de pression. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, le diagnostic précoce est souhaitable puis pour minimiser justement les pertes de vision. On l'a dit, les suivis de façon régulière et appliquer les gouttes, mais malheureusement, il y a peu de mesures qui ont été prises jusqu'à présent pour prévenir la cécité par le glaucome à travers le monde. Il faut comprendre, les gens, étant donné que c'est asymptomatique, ils vont consulter tard les gens dans certaines parties du monde n'ont pas nécessairement accessibilité aux soins.
Non, il y a ça aussi.
C'est un autre facteur.
Donc, c'est possible que il y a beaucoup de gens pour qui ça passe littéralement sous le radar et puis à la longue, leur vision se détériore. Puis là, à ce moment-là, c'est irréversible. Puis ils n'auront peut-être pas non plus accès à des gouttes, des onguents ou de la chirurgie. Alors, d'où la prévalence du glaucome, surtout dans des pays en voie de développement. Est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait pour tenter de trouver des façons d'y arriver plus vite ou de renverser tout ça ou de dépister plus rapidement?
Donc, les recherches qu'on dénote ici, c'est surtout sur comment développer les techniques d'imagerie et de détection du glaucome, c'en est une. Il y a aussi les recherches spécialisées sur les chirurgies moins invasives.
D'accord.
Donc, on parle ici de petits implants qui vont faciliter l'évacuation du liquide.
D'accord.
Puis ainsi, ils vont maintenir une pression adéquate pour l'œil. Puis, aussi, on regarde aussi de diminuer les effets indésirables de certains médicaments tels que les sécheresses oculaires, les rougeurs et l'inflammation.
Bon, on espère que les gens vont aller rapidement prendre un rendez-vous pour leur examen oculaire annuel et qu'on pourra dépister rapidement le glaucome. Je vous remercie beaucoup, Mme Carole Desharnais, qui est infirmière au Centre d'information sur le glaucome McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Merci. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Merci.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
L'école à pas de géant est une école privée d'intérêt public qui, depuis 1980, accueille des élèves âgés de 4 à 21 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme. Et au fil des années, l'école est devenue, à pas de géant, et la fondation qui la soutient financièrement, sont devenues des incontournables dans l'univers de l'éducation et de l'intégration des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Thomas Anderson, qui en est le directeur général. Bonjour, M. Anderson.
Bonjour.
Rappelez-nous un peu d'où ça vient. Qu'est-ce qui a créé en 1980? Comment ça a parti, cette histoire?
En fait, ça a commencé avec une musicothérapeute qui s'appelait Darlene Berenger, qui a commencé en fait avec un groupe de parents dans une salle d'une église, un petit groupe de musicothérapie pour des jeunes personnes autistes. Et de là, le groupe de parents s'est organisé, il y a eu l'intérêt de regarder la possibilité de créer une école. Et rapidement, en fait, il y a un groupe de parents avec Darlene qui a vraiment créé la première école spécialisée pour les élèves autistes ici au Québec, et une des premières, en fait, au niveau mondial.
Et maintenant, Apogean, évidemment, a grandi, mais et veut grandir davantage parce que vous êtes un peu à l'étroit là où vous êtes.
C'est ça. En fait, c'est notre 40e anniversaire cette année, mais depuis quelques années, on a un projet de développement, un projet de construction d'un nouvel centre d'autisme qui prévoit agrandir le côté école, mais aussi parce que de plus en plus, on est actif dans d'autres domaines de travail autres que l'école aussi. Donc, effectivement, on a un projet vraiment intéressant de construire un nouvel centre.
On va y revenir tout à l'heure, mais... Quand vous parlez de d'autres aspects qu'uniquement l'éducation, parce que vous faites de la formation pour les éducateurs, pour les intervenants, je pense.
Bien, en fait, beaucoup plus que ça, mais avant tout, on est une école au niveau préscolaire, primaire et secondaire, et plus récemment aussi, on travaille de plus en plus dans le milieu des adultes, des services aux adultes, donc en éducation aux adultes, mais aussi en employabilité. Mais on a un centre de ressources, donc un centre communautaire qui appuie la communauté autiste via effectivement la formation, mais aussi la consultation, les projets en innovation sociale, donc vraiment un engagement au niveau communautaire aussi.
Alors, et tout ça a lieu dans les mêmes locaux qui, donc, commencent à être un peu étriqués. Et votre projet, il est ambitieux, là. On parle de millions de dollars.
C'est un projet de 50,7 millions de dollars. Mm-hmm. Effectivement, c'est un grand projet. Oui, on a acheté le bâtiment où on est présentement il y a un peu plus que 10 ans. Sachant que c'était pas nécessairement bien adapté à nos besoins à ce moment-là, mais il n'y en avait pas beaucoup d'écoles sur le marché. Il nous manquait des espaces critiques comme un gymnase. On n'a pas de gymnase dans notre école présentement. Donc, on savait depuis le début qu'il fallait éventuellement prévoir une autre installation. On a commencé à regarder sur le marché est-ce qu'il y avait des écoles à vendre. Par la suite, on a exploré la possibilité d'agrandir où on est, mais vraiment, ce processus-là nous a demandé aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait faire s'il n'y avait pas de limite en termes d'argent.
Si vous aviez une page blanche et puis vous aviez le proverbial génie qui sort de la bouteille puis qui vous demande qu'est-ce que vous voulez créer, alors là, vous avez élargi le cadre un peu, vous êtes...
C'est ça. Puis c'était via une consultation publique aussi où on a vraiment tenu des réunions de visionnement, de visioning là, pour l'avenir, où on a consulté le milieu public, des parents, des personnes autistes. Donc, tous les acteurs étaient autour de la table et on a vraiment aussi regardé où étaient les trous de service. Donc, je pense que notre plan, ça répond vraiment directement aux besoins de la communauté.
D'accord. Alors, ça va devenir un centre de l'autisme. J'ai même vu dans les revues de presse la notion du Harvard de l'autisme, parce que vous voulez éduquer, intégrer les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. Là, on parle d'étudier le phénomène et de trouver des nouvelles pistes.
Exact. Le Harvard d'autisme, c'est vraiment le terme que Charles Lafortune, notre porte-parole, a utilisé. Oui. Mais effectivement, oui, en fait, il y aura quatre piliers distincts mais intégrés de services dans le nouveau centre. Donc, bien évidemment, l'école qui va être élargie pour accepter plus d'élèves, le centre de ressources et de services communautaires qui existe déjà, mais qui va offrir de plus en plus de services, un centre d'éducation aux adultes et de formation et soutien à l'emploi, et un centre de recherche et d'innovation.
Et tout ça sous le même toit?
Sous le même toit, mais avec les partenaires clés aussi qui sont établis dans la communauté. Donc, on comprend bien que ce ne serait pas tout seul qu'on va pouvoir accomplir cette mission-là. Donc, on a créé vraiment des partenariats clés avec d'autres acteurs pour pouvoir vraiment créer un système où nous, c'est sûr qu'on espère être la plaque tournante, là, le hub là, pour ce qui est les services en autisme ici au Québec, mais évidemment avec d'autres partenaires importants.
Comment va... Parce qu'il existe l'école Apogean, mais il existe aussi la fondation qui est un outil de financement pour vous.
Pour nos opérations, oui, et maintenant aussi pour la campagne majeure, mais on est une école privée, mais subventionnée, vous avez dit, de l'intérêt public, donc les parents ne paient pas pour les services ici à l'école, mais le financement qu'on reçoit du gouvernement provincial, même si c'est considéré un financement à 100%, ça ne couvre pas les coûts de nos opérations pour le programme qu'on veut offrir, donc notre fondation a l'obligation de lever autour d'1 million de dollars par année pour nos opérations. opération.
Combien dites-vous? Un million?
Un million.
Oui, oui, d'accord. Mais là, on parle de 50 pour votre centre.
Pour, le, pour la campagne de financement pour le projet de construction, effectivement. Oui. Donc, un projet ambitieux. À noter qu'on a soumis aussi au gouvernement une demande pour la moitié des coûts pour le projet. Donc, 25 mm-hmm. millions, on a demandé du gouvernement provincial. Donc, la fondation va essayer de lever l'autre 24 milliards de dollars.
D'accord. Est-ce que le gouvernement vous a répondu? Vous a dit oui si vous êtes capable d'aller chercher? Oui.
Pas encore, mais on espère très bientôt avoir des nouvelles.
D'accord. Est-ce que l'endroit, le site a été identifié?
Oui, oui. Ça va se situer dans le secteur du Technopole Angus, à mm-hmm. Rosemont, ici à D'accord. Montréal, sur le rue Molson.
Près de boulevard Saint-Michel, ce coin-là, Molson?
Oui, en fait, entre Rachel et Saint-Joseph, sur le rue Molson.
Ah, OK, d'accord. L'architecture ou la conception des lieux va être aussi un sujet auquel il faudra s'attarder, parce que si vous voulez offrir des services intégrés à des personnes qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme, vous devez être conscient des aspects physiques aussi des lieux.
Absolument. Puis, en fait, ça s'est venu un peu de là, le projet aussi, parce que aussitôt qu'on a réalisé qu'on allait construire quelque chose de nouveau, on s'est lancé vraiment à regarder qu'est-ce qui était fait ailleurs, quels étaient les standards ou aussi les projets innovateurs dans la construction des bâtiments qui étaient conçus pour les usagers autistes. Puis, depuis le tout début du projet, les architectes, les ingénieurs étaient impliqués dans la conception du projet. Donc, on a consulté aussi des experts au niveau mondial. On a visité d'autres bâtiments qui étaient créés pour les personnes autistes. Donc, c'était vraiment conçu pour tenir en compte les différences perceptuelles, mais aussi les défis sensoriels, etc., que des personnes autistes peuvent y avoir.
C'est parce que vous avez dû voyager un peu pour vérifier, voir comment c'était fait ailleurs dans le monde, parce que c'est assez oui. unique au Canada, votre projet.
Oui, on a visité d'autres exemples ici au Canada, en États-Unis. On a consulté aussi des experts en Europe. Donc, oui.
Donc, la première, c'est difficile pour vous de fixer le moment de la première pelletée de terre, là, parce qu'il faut que... est-ce que vous avez été capable de... Votre thermomètre, là, quand on fait des campagnes de financement, souvent dans les bureaux, là, les gens mettent des thermomètres avec le mercure oui. rouge qui monte vers la cible à atteindre. Là, votre fondation doit... aller trouver auprès de généreux donateurs ou avec des activités 24-25 millions de dollars. Où est-ce que vous en êtes?
On est autour de 65% je crois de notre but au niveau dans le secteur privé. Donc, on est mm-hmm. à 14,3 millions
oh, c'est bon.
À lever via les fondations et les entreprises. Il y a un autre 1,3 million qui est levé parmi nos CA, nos conseils mm-hmm. d'administration. Et aussi la vente éventuelle de notre bâtiment actuel.
Ah, ben c'est vrai.
Donc, oui, ça avance très bien. On est vraiment contents. Puis, il faut noter que le 14,3 millions s'est élevé via seulement 6 fondations à date. Donc, on est très chanceux d'avoir les contributions majeures.
Oui, vous avez des partenaires ou des organismes philanthropiques importants qui vous soutiennent, puis à juste titre, parce que la prévalence des troubles du spectre de l'autisme dans la population tend à augmenter. Il me semble avoir vu une statistique, c'est maintenant un enfant sur 65 ou 70?
64, oui. Oui. Ici au Québec, je crois qu'on est à 65.
D'accord. Alors, c'est quand même une partie importante de la population qui, pour l'instant, n'a pas développé tout son potentiel.
Exactement. Puis, il fallait vraiment aussi considérer les services tout au long de la vie de la mm-hmm. personne. Donc, non seulement les services pour les élèves, pour les jeunes personnes, mais aussi les services pour les adultes, les personnes âgées aussi. Donc, vraiment, le centre va répondre à des besoins tout au long de la vie des personnes.
Et en ce moment, combien d'élèves se retrouvent dans votre école? Parce que de 4 à 21 ans, là, c'est large. Vous ne pouvez pas avoir encore un campus universitaire.
Non, c'est ça. Mais présentement, on a 90 élèves dans mm-hmm. nos services directs ici à l'école. Mais à noter qu'on place aussi, parce qu'on a des programmes d'inclusion scolaire, D'accord. où on place les élèves dans les écoles du quartier, mm-hmm. Dans les écoles du public. Donc, on a des élèves qui sont placés dans 14 commissions scolaires, donc un peu partout. Et on va élargir dans le secteur jeune de 90 à 120, mais on va aussi ajouter une autre 5 classes de classes inclusives. Donc, on va intégrer les personnes non autistes avec des personnes autistes, donc une autre 50 élèves dans ces programmes-là. Et de plus, on va ajouter des classes d'éducation aux adultes et des programmes vocationnels aussi.
Et ça, c'est, cet agrandissement-là, cet élargissement de vos services, ça dépend de la construction de votre centre ou vous allez être capable de faire ça dans vos locaux actuels?
Ça dépend de la construction de la nouvelle centre.
D'accord. Est-ce que vous avez une date? Parce que pour attirer de l'argent, c'est toujours bon de dire ça va être ouvert ce jour-là.
Mais on essaie de débuter la construction cet été. Mm-hmm. Tout va bien. Donc, on prévoit pouvoir déménager à partir de janvier 2023.
Oh, OK. Donc, ça vous donne 18 mois pour y arriver.
Alors, exactement.
Évidemment, il faut pour ça que l'aide du gouvernement soit au rendez-vous. Là. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez avec une structure pas parachevée. Là. Ça serait, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés dans votre entreprise.
Oui, puis vraiment, la contribution du gouvernement, c'est essentiel pour nous. Non seulement pour les finances, mais aussi parce qu'il faut absolument, d'après nous, que le gouvernement soit là avec ce projet.
Parce qu'il y a aussi une question de responsabilité. Évidemment, il y a un délestage aussi de la pression que ça fait en ce moment, de prendre soin d'éduquer et de voir au développement du plein potentiel des personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. C'est une responsabilité sociétale, alors ça ne peut pas relever que de vous.
Exactement, non. Puis c'est vraiment aussi de pouvoir agrandir la capacité d'autres acteurs aussi dans le milieu et de créer quelque chose qui est réplicable ailleurs aussi. Donc ça, c'est vraiment une souhaite du projet, de créer un modèle qui serait vraiment réplicable dans d'autres régions de Québec ou ailleurs.
Oui, aussi. Bien, on vous souhaite bonne chance, M. Anderson. M. Anderson est directeur général de l'école à Pas de Géant, qui est une école qui existe déjà depuis plus de 40 ans, qui se spécialise auprès des jeunes adultes qui vivent avec une problématique du spectre de l'autisme. Merci beaucoup, M. Anderson.
Merci à vous.
Elvis Costello, de son vrai nom, Declan Patrick McManus. Évidemment, tout le monde le connaît sous Elvis Costello. Les deux chansons aujourd'hui avec un rapport entre elles. Il y avait un lien. On vient d'entendre Radio Radio d'Elvis Costello. Et plutôt, c'était le groupe acadien Radio Radio. Voilà. Alors, Monsieur La Liberté s'amuse. Nous avons avec nous quelqu'un d'autre qui s'amuse à faire le tour du monde des médias, des manchettes. Madame Christiane Campagnard, comment allez-vous?
Je vais très bien. Et vous?
Ça va bien, merci. Si j'étais un abonné de la STM en octobre, on va me donner de l'argent.
Oui, on se rappelle qu'en octobre, il y avait eu une grande panne informatique qui avait particulièrement affecté le service de réservation du transport adapté. Donc, c'est une clientèle qui avait été plus touchée. Par exemple, moi qui suis une utilisatrice du réseau régulier, la seule chose, c'est que je ne pouvais pas trouver l'erreur sur Internet.
C'est pas grand-chose.
Mais je pouvais me pointer au coin de la rue puis je savais que l'autobus allait passer. Donc, la STM a décidé d'offrir un dédommagement. Il y a des gens, c'est écrit remboursement dans le communiqué. C'est peut-être un petit peu fort comme terme. Je préfère dédommagement. Donc, pour les détenteurs de titres mensuels ordinaires, il y aura 10,50 $.
OK.
Et pour un détenteur de titre mensuel réduit à cause de l'âge, statut d'étudiant, tout ça, donc 6,50 $. On peut faire la demande par la poste, par courriel, à réclamation@stm.info, ainsi que par téléphone au 514-350-0800. Et le montant vous sera envoyé en espèces par courrier. Il faut vraiment, c'est vraiment le service des réclamations qui peut s'occuper de la demande si vous avez contacté la STM. Mais moi, je me rappelle avoir parlé, avoir fait une entrevue à ce moment-là avec Linda Gauthier. Là, c'est un remboursement. Au fond, c'est un dédommagement sur la perte en lien avec le fait qu'on possédait un titre. Mais les personnes en situation de handicap ont dû débourser plus que ça pour compenser.
Plus. En fait, c'est un peu bête. Vous qui n'êtes pas en situation de handicap, on vous dédommage de 10 $ parce que vous aviez de la misère à accéder au site Internet, alors que quelqu'un qui avait besoin du transport adapté pendant une semaine n'y avait pas accès nécessairement. Ça a coûté plus cher.
C'est seulement pour le remboursement, c'est seulement pour les usagers du transport adapté.
Ah, d'accord.
Bon. Mais il reste que ce sont des gens qui parfois ont dû se payer des taxis.
Pas mal plus cher que 10 $, là. Oui, tout à fait. OK.
Donc, ça ne dédommage pas pour tous les coûts qu'on a engendrés pour la personne. Non. C'est seulement pour la perte, disons, la perte de jouissance du titre mensuel.
Le fait que pendant une semaine, ils avaient beau avoir un titre pour le transport adapté, c'est comme s'ils n'en avaient pas.
Voilà. Donc, une bonne nouvelle, mais peut-être un petit peu mitigée. Et là, je voulais parler du fait qu'on a déjà parlé, vous avez parlé récemment à Mouloud Boukala à propos d'un programme.
Oui, à l'UQAM.
Oui, à l'UQAM. C'est aussi le directeur de la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les auto-représentations dont on avait parlé à Canalem au printemps dernier.
Oui.
Et je voulais parler de leur site web qu'ils viennent de lancer et qui est un modèle à suivre. Donc, le site offre de nombreuses options d'accessibilité pour les personnes, tout d'abord, ayant une déficience visuelle. Chacune des pages du site propose un outil permettant d'écouter le contenu plutôt que de le lire. La taille de la police, les niveaux de gris, le contraste entre l'arrière-plan et le texte, tout a été bien pensé. Les hyperliens aussi pour rendre le site le plus accessible possible. C'est tellement rare qu'on entende de si bonnes nouvelles que je trouvais que ça valait la peine d'être souligné.
Est-ce que vous avez l'adresse du site?
Ah non!
On peut la mettre bientôt sans la retrouver.
Oui, mais je peux continuer à vanter ses mérites, par exemple, parce que là, j'ai parlé du handicap visuel, mais on peut consulter le site en français standard et en français simplifié, ainsi qu'en anglais. Et une capsule vidéo présente la chaire en langue des signes québécoise ainsi qu'en langue des signes américaine pour les utilisateurs anglophones. Donc, ça a été réalisé en collaboration avec le Bureau des initiatives numériques, le service des communications. Peut-être que tout l'UQAM pourrait prendre modèle.
Oui, beaucoup. Et bien plus d'autres, bien d'autres organismes encore, oui.
Oui, je vois encore passer. Autant, on avait vu passer il y a quelques semaines ici des enjeux concernant le site pour prendre Clic Santé, pour prendre rendez-vous pour son vaccin ici. Et j'ai vu passer des nouvelles du même genre pour un peu partout dans le monde, en Australie notamment. La prise de rendez-vous pour les vaccins pour les personnes qui ont un handicap visuel est vraiment compliquée.
Oui, à moins d'être bien chanceux, puis d'adonner à être chez Jean Coutu, Proxime, Uniprix ou Brunet. En fait, j'essaie de nommer toutes les chaînes, d'être à la pharmacie locale pour prendre un rendez-vous parce qu'on va avoir notre vaccin dans une pharmacie. Sinon, c'est pas facile.
Voilà. On s'en va à Hollywood. Il y a une lettre qui a été signée par 80 acteurs et professionnels de l'industrie du divertissement, dont l'actrice Amy Poehler, Naomi Harris. Et c'est une lettre qui insiste sur la nécessité d'agir rapidement contre la discrimination envers les acteurs particulièrement ayant un handicap. C'est une lettre, une campagne avec le mot-clic « Don't dismiss this » pour « disability ». Qui a été élaborée par une actrice maintenant agente qui s'appelle Kelly Catwells, qui a elle-même un handicap qui lui a fait perdre des rôles, elle, parce qu'elle vit avec une stomie. Et elle propose que les grands studios embauchent ce qu'on pourrait traduire par des agents pour de personnes handicapées, des disability officers, qui dont le rôle serait d'assurer une représentation et aussi un traitement juste des talents des personnes qui ont un handicap. Donc, à la fois des pratiques d'embauche plus inclusives, mais aussi ce qu'on voit à l'écran, que ce soit plus représentatif de la réalité des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a comme des trames narratives récurrentes.
Qui sont toujours les mêmes. On est inspirant ou bien on fait terriblement pitié, c'est un ou l'autre. Mais juste de voir quelqu'un qui est dans la société, qui adonne à vivre une situation d'handicap, ça, c'est plus rare. Pourquoi est-ce que la personne qui répond au comptoir de restauration minute et qui sert le hamburger à la vedette du film, pourquoi cette personne-là au comptoir pourrait ne pas être dans un fauteuil? Simplement, elle fait son travail, puis ça adonne qu'elle a une mobilité réduite.
Voilà, si on avait moins aussi de trame narrative axée sur le miracle, la personne.
Oui.
Ben, ça permettrait aussi d'embaucher des acteurs en situation de handicap qui, eux, n'en vivent pas un miracle. Parce que c'est souvent la raison pour laquelle on prend un acteur régulier, parce qu'à la fin du film,
il se lève ou elle se lève ou. oui, c'est ça. I can see. Oui, voilà.
Mais, voilà, tout à fait. Et je voulais aussi vous parler d'une biographie d'Alexander Graham Bell, une nouvelle biographie dans laquelle. D'autrice Katie Booth, met beaucoup l'accent sur ses liens avec la surdité. Autant la mère que l'épouse de Bell vivait avec une surdité, mais c'était... il est très représentatif aussi d'une vision de l'époque où c'était quelque chose à réparer.
C'était victorien.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est en faisant un promoteur de ce qu'on appelle l'oralisme, qui est un mouvement qui incitait les personnes sourdes à apprendre à s'exprimer par la parole et qui aussi, parce que ça, c'est pas nécessairement mal en soi, mais qui ne voulait pas qu'on apprenne la langue des signes.
Oui.
C'est vraiment une vision de l'inclusion qui en est une de l'effacement du handicap, de se fondre dans le monde des entendants.
Et il s'opposait aussi au mariage de personnes sourdes.
Oui. Tout à fait.
Parce que c'est dangereux pour les enfants, là. Ils pourraient se faire mal.
Oui, c'est ça. On l'a accusé un petit peu d'eugénisme à cause de ça, bien qu'il n'était pas pour. L'auteur de la biographie précise qu'il n'était pas pour la stérilisation, mais qu'il préférait que les personnes sourdes ne se marient pas entre elles.
C'est ça.
Sauf que c'est une vision qui nuit au développement du langage chez les jeunes enfants, qui nuit au développement de la plasticité du cerveau, parce que c'est très long, ça. Et c'est difficile d'apprendre le langage des entendants, alors que l'apprentissage de la langue des signes permet d'une première éveil au langage beaucoup plus tôt.
La communication.
Et donc, ça a été très néfaste pour les personnes en situation de handicap.
Oui, tout à fait. Il a fait de grandes choses, M. Bell, mais pas comme tous les humains, il y a un revers à la médaille.
Souvent, qui est représentatif de l'époque.
Exact.
Parce qu'il y a des individus, mais il y a aussi la culture contexte. Dans laquelle ils ont évolué.
on va parler de sportifs, de gens qui se dépassent à l'émission de Camille.
Oui, à l'émission de Camille notamment, avec Carl Otis, qui après un accident de plongeon, donc s'est retrouvé avec une paralysie. Cette personne-là œuvre plutôt en tourisme, mais aussi on va parler à Catherine Potvin, qui est athlète pour les Olympiques spéciaux du Saguenay. C'est quelqu'un qui vit avec l'autisme. Mais aussi, cette semaine, on parle de sport. À l'émission, on parle de sport.
D'accord.
Avec Dominique Tremblay demain soir. Et on parlera justement à Maxime Gagnon, directeur général du Défi sportif Altergo, pour parler de cette édition hybride qui aura lieu cette année, un peu virtuel, un peu présentiel. On va parler de l'équipe de nationale de goalball avec Nathalie Séguin. Et on va rencontrer une athlète de paraski de fond, Lynn-Marie Bilodeau.
Oui, parce que moi, ça fait longtemps que je connais le défi sportif Altergo. Puis pour moi, deuxième moitié d'avril, là, ça veut dire défi sportif. Là. Il y a, dans mon calendrier personnel, là, il y a une grosse quinzaine qui s'appelle défi sportif Altergo.
Oui, j'essayais toujours d'aller au moins un matin à l'entrée des jeunes athlètes.
Oui, oui, c'est là que ça fait.
C'est un bon moment, un beau moment à avoir.
Exact. Il n'y a rien comme la joie de la victoire. Ben, merci beaucoup, Christiane Campagna, notre recherchiste tout azimut. Et merci aussi à Jean-Sébastien La Liberté qui s'est amusé à faire des suites dans les idées et des rapprochements dans les choix musicaux. Merci. À la semaine prochaine. C'est François Beauregard qui vous souhaite une bonne fin de journée.